J'entends des voix avec Luc Fortin et Christiane Campagna.
Faut pas oublier Jean-Sébastien Laliberté non plus à la technique. Madame Campagna, bonjour!
Bonjour, Monsieur Fortin.
Jean-Sébastien!
Oui, bonjour.
On a 3 minutes avant de passer à l'invité du jour qu'on ne nomme pas pour le moment parce qu'on l'a déjà reçu la semaine passée, fait qu'elle n'est pas en studio, elle a été assez gentille pour rester après l'émission.
Oui, c'était... On ne la nomme pas.
Bravo.
Donc,
t'as-tu écouté quelque chose? Moi, j'ai découvert quelque chose.
C'est quoi?
Ça s'appelle... On fait quoi maintenant? C'est sur les abus sexuels et invite Stéphanie, qui est une des deux protagonistes de cette série. C'est une série vraiment... J'aime ça, moi, des balados qui veulent aider, qui veulent changer quelque chose. Mais c'est vraiment, là, ils n'ont pas de budget. Tu vois, des fois que le son, comme est allé parler à Marie Malchalos, journaliste à Radio-Canada, mais je pense que c'était dans un bar ou un resto, alors il y a beaucoup de bruit en arrière. Mais l'œuvre est louable. L'intention est belle. Alors, je te reviens pour mes impressions là-dessus, puis on verra si on invite Stéphanie.
Moi, je suis dans une période où j'écoute beaucoup de balados, une catégorie dont on ne parle pas souvent, qui n'est jamais dans les palmarès. Personne ne dit qu'ils écoutent ces balados-là, alors qu'ils font tous de très bons chiffres. Ce sont des balados axés sur la gestion du temps, le travail, les méthodes de travail. Et je suis un peu geek sur ces choses-là. En écouter le matin, d'ailleurs, ça me stimule. Quand j'arrive au travail, je suis motivée. Bon, déjà, tous les matins, j'écoute le balado Before Breakfast de Laura Vanderkam. Mais à l'occasion, j'en écoute d'autres. J'aime bien écouter David Allen, le fondateur de la compagnie Getting Things Done, qui est toujours un orateur intéressant.
Beau titre.
Et j'écoute aussi un petit peu Hello Monday, qui est un balado fait par LinkedIn, animé par Jesse M. Paul.
Ah oui, LinkedIn fait des balados.
Oui, wow. Oui, ils en ont même plus qu'un. Et j'ai découvert celui-là récemment. Et pendant longtemps, j'ai écouté, mais il n'existe plus, le balado Ask a Manager, qui était animé par Allison Green.
Bon. Petit pont musical et ensuite on revient avec notre invité de la semaine dernière, Élodie Gagnon, de la maison de production Récréation. Merci d'être resté, Élodie Gagnon, parce que effectivement, c'est la première fois qu'on parle à un producteur, productrice qui n'a rien à vendre. Alors, on va se servir de tes compétences pour essayer de voir comment ça se passe dans la tête, dans ton cas, d'une productrice de balado qui veut s'assurer que ce soit un bon produit, qui veut s'assurer que ce soit diffusé quelque part, qui veut s'assurer que ce soit rentable. T'es arrivé comment dans le monde du balado, premièrement?
Ben en fait, moi, j'ai fait de la radio pendant 12 ans à Radio-Canada, principalement comme animatrice, mais j'ai vraiment touché à tout. J'ai commencé à la défunte émission Macadam Tribu et on faisait des reportages qui, en fait, ressemblaient à des balados. C'est vraiment des reportages là, qui étaient... C'est comme des petites histoires qu'on enveloppait, qu'on présentait dans l'émission. Donc, j'ai vraiment touché là, à tous les modes de production. Ensuite, j'ai allé à Bande à part. Même chose aussi. On avait nos propres émissions sur la radio satellite, n'est-ce pas? Et bref, j'ai toujours baigné dans l'audio. Et ensuite, j'ai quitté Radio-Canada pour aller travailler dans le privé. Je suis allée à C2 Montréal, qui, à la base, est un événement, mais qui a décidé de faire une radio événementielle. Et là, on a fait une radio sur place pour pouvoir interviewer tous les gens qui passaient par là. Et avec ça, on a fait un podcast évidemment dédié aux gens d'affaires, quoique il y a vraiment de tout à C2 Montréal.
Et ça existe encore?
Ça existe encore,
j'en
oui.
J'en reviens pas, c'est la première fois que j'entends parler d'une radio événementielle pour cet événement-là.
Bien, écoutez, j'ai fait des petites recherches et je peux me tromper. On s'entend qu'elles ne sont pas exhaustives, mais je n'ai pas trouvé d'autres radios événementielles. Je crois que c'est la première,
ben, y avait,
entre l'une des seules.
Avant l'existence de Couleur Jazz, durant le festival de jazz On ouvrait une radio jazz pour 2 semaines.
Bien, ça, oui, excusez, excepté les festivals de musique, okay. Je trouve que ça va un peu de soi, là, mais je parle vraiment pour des événements qui ne sont pas d'ordre musical du tout. Donc, c'était le premier podcast, là, j'avais vraiment, là, je pouvais mettre les deux mains dedans, c'était très agréable. Et ensuite, j'ai décidé de vouloir continuer là-dedans. J'ai toujours aimé le son, l'audio, la radio, mais ce que j'aime vraiment dans le balado, qui pour moi est différent de la radio, c'est que on peut vraiment se permettre d'être plus niché, d'être plus authentique aussi, parce que la radio, on dit souvent que c'est le média de l'intimité, c'est vrai, on est près des gens, mais on doit quand même s'adresser au plus grand nombre possible. Et souvent, la radio, c'est un médium qu'on met dans le fond sonore, on l'écoute un peu toute la journée, on monte le son quand, oups, une entrevue qui nous plaît davantage. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on écoute un peu en sourdine, alors que le balado, on le choisit. C'est dans des moments où souvent, on a toute notre attention intellectuelle, on peut faire autre chose avec nos mains, mais on écoute. Alors, il faut vraiment que la personne aime ça puis qu'elle nous ait choisi pour les qualités qu'on lui propose. Alors, il y a vraiment ce contact intime-là que je trouve extraordinaire, qu'on ne peut pas avoir non plus à la télé parce que là, il y a toute l'image qui vient en ligne de compte. Donc, c'est que le contenu. Et vous parliez, je pense que c'est la semaine passée, Christiane, vous parliez de l'importance de la qualité du son. Mais là, on peut pas mentir là, dans un balado. Il faut que ça soit bien fait quand même. Et justement aussi, on peut se permettre donc d'aller traiter de sujets qu'on pourrait pas faire en radio parce que ça doit, comme je disais, là, ça doit parler à tout le monde.
C'est
là,
ça, c'est un peu vraiment... niché. Le balado peut être niché.
On peut aller chercher des communautés et ça se doit d'être authentique. Alors, vous savez, toute la mode des vedettes, aller prendre des vedettes pour mousser quelque chose, en balado, ça ne marche pas. À moins que, je donne l'exemple, là, on en a déjà parlé ici à cette émission 3,7 Planètes. Bon, François Bellefeuille, on n'est pas allé le chercher pour animer ce balado-là. C'était son balado, c'était son idée, c'était son spectacle qu'on mettait en scène. Alors ça, j'aime beaucoup ça, cette idée d'avoir vraiment des gens qui sont pertinents et qui proposent... Ben un peu, vous parliez, on a parlé là, de Pourquoi Julie, qui est une production qu'on a fait à Récréation. On ne l'a pas proposé à Émilie Perrault. C'est Émilie Perrault qui est venue nous proposer ce sujet-là. C'était elle qui était une fan de Julie Masse. Donc, on n'aurait pas pu prendre quelqu'un d'autre en disant, « Ah bon, toi, t'aimes un peu Julie Masse. OK, c'est beau. Tiens, tu vas le faire. » Alors, moi, c'est vraiment là, ce qui me passionne dans le balado.
Bon, alors, justement... full disclosure, je t'ai approché avec une idée, tu m'as dit non.
Oui, j'ai dit non.
Pourquoi, pas pourquoi cette idée-là, mais qu'est-ce que tu recherches?
Ben, en fait, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense que, bon, ça, je l'ai dit, là, les trois choses de base, ça se doit d'être niché, ça se doit d'être intime, ça se doit aussi d'être authentique, ça se doit aussi d'être pertinent. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses, des fois, impertinentes qui peuvent très bien marcher dans un podcast et inversement aussi, des choses pertinentes qui ne marchent pas non plus. Par contre, c'est quelque chose... Souvent, je me rends compte que les gens vont proposer des idées qui marchent mieux à la radio, mais des fois moins bien pour le balado et vice-versa. Les gens mélangent encore les deux médias. C'est normal. Au Québec, c'est relativement nouveau. Moi, je sais qu'à Bonaparte, on en faisait un en 2005, mais c'est comme si après, le balado était tombé dans un trou, puis là, vient de revenir, ben, tant mieux. Mais ça prend du temps quand même avant de ressurgir. Et puis, il y a des sujets aussi qui peuvent s'épuiser. Puis à un moment donné, une fois qu'on en a fait quelques-uns, on a de la misère à le porter.
Vous concrètement?
Bien, par exemple, au Québec, je dirais qu'un des... Je ne dirais pas que c'est un problème, mais c'est un défi. On a encore la misère. On a encore la misère. Je pense que ça ne se fait pas encore. On ne fait pas de grosses séries. Je parlais l'autre jour, je pense, de Daily, qui font des podcasts chaque jour. Il y a Radio-Canada qui en fait, peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine.
Ça s'explique, ouais, 5 jours semaine.
5 jours semaine, oui. Ou en 5 minutes de Cube Radio aussi, c'est chaque jour. Mais c'est rare. Puis c'est pas des gros... En tout cas, ça s'explique, je pense que c'est un peu plus long. En 5 minutes, ben, c'est 5 minutes, c'est pas long. Mais on n'a pas encore des Radio Lab qui existent depuis des années, puis qui construisent vraiment une communauté puis une relation. Donc, souvent, les diffuseurs vont prendre des séries qui sont plus courtes. On parle de 5, 6, 10 épisodes maximum. Alors, c'est difficile après ça de refaire une deuxième série. Souvent, les gens vont vouloir aussi explorer. On est en mode exploration au Québec. Donc, les gens veulent beaucoup de nouveautés. Ils veulent pas réécouter la même chose. Et on n'a souvent pas les reins assez solides encore pour faire des grosses et longues séries. Fait que je dirais que ce que je recherche, moi, d'abord et avant tout, j'aime avoir des sujets qui me surprennent. Justement, Pourquoi je lis, c'est un bon exemple. Moi, j'ai jamais été une fan de Julie Masse. Et quand on m'a proposé ça, mon premier questionnement, ça a été, mon Dieu, pourquoi parler d'elle?
Ouais, ouais.
Mais ça a piqué ma curiosité. Ça avait aussi ce petit côté un peu suranné. Bon, est un peu passé date, Julie Masse. Et puis, il y avait quelque chose aussi de... C'est vrai que c'est un petit peu confrontant. Pourquoi elle est partie? Surtout à une époque où on essayait de dire aux femmes, tu peux faire tout ce que tu veux. Puis là, finalement, une femme qui décide de tout laisser pour la famille.
Oui, puis en plus, elle revenait dans l'actualité avec son passage au Québec l'hiver dernier, le printemps dernier. Donc, ça donnait-tu bien?
Oui, ça donnait bien. Ben en fait, oui, effectivement, c'est sûr qu'on a profité de ça.
Vous l'avez fait venir pour le balado, c'est ça qui est arrivé.
Ah oui, mon Dieu, on aurait aimé ça, puis on a essayé de la voir pendant qu'elle était là, mais non, on n'a pas du tout été capable. Mais sujets originaux, pertinence aussi de... Souvent, ça va être une conjoncture, mais cela étant dit aussi, il faut que ça soit un contenu qui peut durer longtemps. Mmh. Des fois, les gens proposent
bien,
des trucs
là.
Qui parlent de quelque chose de la semaine ou du mois. Ben, si dans 6 mois, je ne peux pas le réécouter parce que l'actualité va être passée, ça fonctionne
pas.
Ça. Oui, donc vraiment, c'est, je dirais, pertinence, originalité, puis aussi le traitement aussi, la personne qui propose, si elle est en phase avec ce qu'elle propose, si c'est la bonne personne pour le faire. C'est aussi...
La monétisation?
Ça, la monétisation, oui. Ça prend c'est sûr que ça prend une place importante. Alors, au Québec, présentement, le modèle, évidemment, de base, c'est le diffuseur qui va acheter une licence pour avoir le balado sur sa plateforme. Je pense que tout le monde travaille fort à essayer de trouver d'autres modèles. Il y a aussi, évidemment, les commandites. Dans Pourquoi Julie, on a eu des commandites. Il y a les annonces, qu'on peut prendre comme justement des commandites. Il y a, par contre, des nouveaux modèles qui émergent. Il y a des plateformes comme Patreon où on peut donner CanadaLand, qui est une compagnie canadienne qui fait des podcasts, s'en sert beaucoup. Et donc, ils demandent à leurs éditeurs de donner de l'argent chaque mois. Évidemment, il faut avoir une grosse et bonne communauté généreuse pour pouvoir faire ça. Mais on est encore en train de le définir, ce modèle-là. Évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle le contenu corporatif, donc des compagnies qui veulent non seulement faire des balados, il y en a que ça va être pour le public, il y en a d'autres que ça va être pour leurs employés.
Ouais.
Donc, nous, on a commencé à faire des balados à l'interne pour parler aux employés au lieu d'envoyer un courriel ou peu importe.
Ah oui.
Donc oui, il y a plusieurs, c'est ça. Il commence à avoir des modèles. Il y a aussi le placement de... Nous, on offre un service parce qu'on se rendait compte qu'il y a des compagnies qui disaient, nous, on aimerait ça faire des publicités. On ne veut pas faire de balado. On veut faire des publicités dans le balado, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Mmh. Donc, on les aide à trouver les bons balados, à négocier avec les producteurs pour qu'ils puissent à ce moment-là s'exprimer, commanditer le podcast.
Est-ce que, et on est en tout début d'année, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent chez Récréation dont tu peux déjà nous parler?
Et pourquoi?
Oh oui, c'est une bonne question, ça. Mon Dieu, est-ce que j'ai le droit? Je m'en donne le droit, tiens. Oui, évidemment, on travaille sur plein de projets en même temps. Il y en a un qui, en fait, il m'excite tous, sinon je ne les ferais pas. Moi, c'est la première chose. Il faut que j'aie du fun à le faire. Si je ne vois pas comment je peux avoir du plaisir, je ne le fais pas. Un sur lequel on a commencé à travailler, c'est un balado qui parle de la mort, mais de l'aide médicale à mourir. Et aussi, on veut... En fait, c'est vraiment un balado, je dis « on ». Je pense que... Je ne sais pas si je peux dire le nom de la personne avec qui je travaille, mais c'est en fait quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a une expérience de la mort très exhaustive. Et en fait, ce qu'on veut avec ça, c'est vraiment pas confronter les gens à la mort, mais que les gens aient peut-être moins peur de ce sujet-là, osent en parler aussi. C'est la seule chose que tout le monde va vivre dans sa vie. C'est une des choses dont on parle le moins, dont on a
chienne,
le plus
c'est
peur.
Que je sais pas où on va.
C'est la peur de tout le monde.
C'est difficile de pas avoir, d'avoir, même malgré tous les balados que tu peux faire,
oui.
Là, à moins que tu me dises où je vais, là. Je ne sais pas si ça va calmer cette crainte-là.
Bien, sincèrement, depuis que je travaille sur ce balado-là, j'ai moins peur de la mort. Bien, évidemment, je suis en santé, je touche du bois, tout va bien, mais bon. Mais en tout cas, j'espère que les gens vont ressentir cette sérénité-là que moi, je peux ressentir en travaillant dessus.
Donc, j'essaie de penser pourquoi c'est niché, c'est universel. Difficile pour un diffuseur de refuser si c'est bien fait, parce que tout le monde, on y passe...
Oui.
Donc, c'est vrai que ça, ça remplit plusieurs cases.
C'est aussi un sujet qui est d'actualité dans le sens où depuis
tous les jours.
Depuis plusieurs années, là, c'est dans les débats quotidiennement, autant au niveau provincial, au niveau fédéral, jusqu'où doit-on aller? Faut-il avoir une mort imminente ou pas? C'est vraiment un sujet d'actualité en plus.
Complètement, et ça change constamment. On l'a vu là, récemment, il y a à peine 2 mois. Et là, on a redéfini ce que voulait dire une mort imminente. Et je ne me rappelle pas c'est quoi le terme exact, mais je veux dire, c'est très flou comme règle. Donc ça va être intéressant de voir. En fait, c'est un balado qu'on pourrait étaler, je pense, sur le long terme parce qu'il va toujours avoir des changements dans cette loi-là.
Ça, le défi, c'est de le garder à jour parce que la Cour suprême peut changer l'épisode 4 ou l'épisode 6 de votre aventure. Là.
Mais Luc, vous me demandiez en quoi justement c'était niché. J'ai oublié de dire quelque chose de très important. Si vous regardez dans tous les balados que vous écoutez, que vous aimez beaucoup, il y a quelque chose qui pour moi est très important dans les balados documentaires, là, bien sûr, peut-être moins dans les balados d'entrevue. C'est que souvent, on parle d'une expérience personnelle, mais pour toucher à un thème ou des thèmes qui sont universels. Et c'est ça, justement, qui fait la niche un peu. C'est-à-dire que, je reviens à mon exemple, la radio, une émission spéciale sur l'aide médicale à mourir, bien là, on va faire toute l'historique, on va avoir quelqu'un qui va vous expliquer ça, qui va avoir 3-4 experts autour de la table, puis là, on va en parler. Alors que là, on parle vraiment d'une expérience personnelle. La personne avec qui je travaille, ça lui est arrivé de près à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment son histoire et c'est à travers cette histoire là qu'on arrive à s'identifier qu'on ait vécu ça ou non et qu'on peut toucher à des thèmes plus universels. Et je pense que justement, le fait que ça soit intime, ce côté émotif-là est important pour qu'on se fasse prendre, pour qu'on soit bouleversé. C'est un peu ça qu'on veut quand on écoute. Pas tout le temps, ça dépend des genres de balado, mais balado documentaire, il y a quelque chose là qui on veut être touché, on veut pas rester de marbre quand on écoute ça.
Ouais.
On veut apprendre, mais on veut aussi apprendre du cœur, finalement.
Il l'a dit tout à l'heure, hors honte, tu nous parlais du fait que tu avais été au Paris Podcast Festival.
Non, je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée. Peut-être l'année prochaine, mais cette année, je n'ai pas pu.
Je pense que mon lien va fonctionner quand même. Parce que ce que je veux savoir, c'est si Récréation a des visées de produire au-delà du Québec.
C'est une bonne question. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup. Pourquoi pas? Est-ce que le marché... Évidemment, bon, il y a 2 marchés, hein, bien sûr, français ou je dirais européen, parce qu'on oublie souvent qu'il y a des francophones un peu partout sur la planète et beaucoup en Europe, pas juste en France, et le marché anglophone. Peut-être pas dans un univers très rapproché, mais à moyen terme, oui, moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je pense que, on parlait de niches tout à l'heure, les niches ne sont pas juste géographiques. On peut aller chercher des niches qui existent partout à travers le monde. Évidemment, bon, le français, il y a la barrière de la langue, mais je pense que de moins en moins, c'est un problème. Je pense que de plus en plus, on est capable de se satisfaire, d'avoir des accents différents. Et même, on recherche ça, on aime ça, entendre des accents différents. Donc, je pense que du côté de la francophonie, c'est certainement une avenue. Et du côté anglophone aussi, on a vu beaucoup d'initiatives dernièrement, par exemple avec un podcast qui s'appelle « Dr. Death ». On l'a sorti simultanément en anglais, en français, en espagnol, en d'autres langues aussi. Donc, pourquoi pas faire des balados dans plusieurs langues en même temps et ne pas priver d'autres publics, justement, d'avoir... Surtout quand ça touche des thèmes universels, comme par exemple la mort des choses comme ça.
En Belgique, ça fait longtemps que le suicide assisté est légal. Je dis en Belgique, c'est peut-être en Suisse.
Mais en Belgique,
parce qu'il y a une para-athlète qui...
C'est vrai, récemment.
L'automne dernier, qui a eu recours à ça.
Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas produit cette nouvelle parution en fonction de l'Europe également.
Non.
OK.
Mais non, c'est vraiment, on parle de ce qui se passe au Québec. Ouais. Cela étant dit, je pense que c'est un mouvement qui va s'étendre, l'aide médicale à mourir, quelques formes qu'elles prennent. Ouais. Je pense que plus de pays qui vont être appelés justement à embrasser des nouvelles lois qui vont être plus permissives face à ça.
Mais comment rester intimiste alors qu'on parle à différents publics de différentes cultures avec différents accents?
Bien, je pense que c'est vraiment avec ces histoires personnelles. Je pense que si on va dans le cours, là, on tombe un petit peu dans quelque chose où l'accent devient très important, les exemples. Mais si on va dans l'histoire personnelle, là, on est capable de s'identifier à des gens d'abord et non à des situations, des lois, des technicalités. Et c'est ça qui fait qu'on aime une bonne histoire et on est capable vraiment de s'identifier. Et il y a plein de balados, moi, que j'écoute, des balados qui viennent de la France, des États-Unis. J'ai pas du tout la même réalité, mais je trouve ça fascinant parce que j'aime le personnage, j'aime ses valeurs, je peux me voir dans certains de ses traits de caractère. Fait que je pense que c'est vraiment ça le nerf de la guerre.
Je reviens à la monétisation.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on fait un pilote pour proposer quelque chose à un diffuseur ou on va voir le diffuseur avec un synopsis? Comment ça fonctionne pour ne pas à la fois perdre trop d'énergie, mais s'assurer que le diffuseur a une bonne idée de notre projet?
Bien, effectivement, ça, c'est une bonne question parce que, premièrement, je pense que de plus en plus les diffuseurs reçoivent d'offres. Alors, c'est sûr que plus on va donner de choses pour lesquelles le diffuseur peut vraiment savoir à quoi s'en tenir, mieux ça va être. Donc, si on ne peut pas ou on ne veut pas faire un pilote, en fait, pilote, je trouve que le mot est gros. D'habitude, un pilote, on fait ça quand le diffuseur a accepté une phase de développement. Alors là, des fois, on peut avoir des sous pour faire un pilote et ça va lui servir, en fait, de garantie pour s'assurer que, bon, on s'est bien compris, c'est le même projet dont on parle. Mais d'habitude, ce qu'on va faire, nous, ce qu'on aime bien faire en récréation, je pense pas qu'on soit les seuls, c'est de faire des petites bandes-annonces. Donc, souvent, pour donner une idée du son, pour faire entendre aussi la personne, le narrateur, la narratrice, on va faire une bande-annonce de peut-être une minute et demie. Et déjà, ça donne le ton, ça donne la couleur. Et on peut, pour le diffuseur, ça peut être intéressant, là, ça donne une idée. Parce que le problème de l'audio, c'est ça. Hein? On reçoit un synopsis, c'est écrit. Oui, ça peut être très bon sur papier, ouais, mais
je dirais l'audio... On n'a pas d'idée de la qualité. Là.
On n'a pas d'idée, puis on ne sait pas comment ça va être traité. Il y a mille et une façons de traiter le son. Donc, il faut donner un petit peu de matière. Mais je dirais, si quelqu'un voulait déposer sans audio, ça se fait aussi. Il faut juste y aller dans le détail. Il faut vraiment que la personne puisse entendre. Donc, essayer de donner des détails sur ce qu'on va... Ça va être quoi l'atmosphère, ça va être quoi les personnages, ça va être quoi les lieux, ça va être quoi les ambiances sonores, s'il y a une idée précise de la musique, des choses comme ça, qui peuvent agrémenter, faire en sorte que le diffuseur puisse vraiment avoir une bonne idée là, de ce dans quoi il s'embarque.
Élodie, merci beaucoup. D'abord, merci d'avoir resté pour une deuxième semaine. Et il y a des grosses chances que l'on parle de mort d'ici quoi? Début de l'automne?
Je pense que ça serait un bon moment, mais je ne m'avance sur rien. Il n'y a rien de fixé pour l'instant.
En tout cas, tu reviendras, que ce soit toi ou quelqu'un de ton équipe, ou peut-être la personne qui tient le projet, je ne sais pas trop, là, la personne mystère.
Oui.
Mais en tout cas, merci beaucoup. Et merci pour tes lettres que l'on peut recevoir via courriel. Peut-être nous donner l'adresse en terminant.
Oui, pour s'inscrire à notre infolettre, c'est au recreationaudio.ca. Vous allez voir dans le bas de la page, vous n'avez qu'à rentrer votre adresse courriel et vous allez recevoir chaque semaine notre infolettre de suggestions.
Merci, Élodie Gagnon.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
Fatiguant, se réécouter. Mais tu es tellement bonne pour moi, Christiane. Là, je rentendais ça. Sais-tu, merci d'être resté ou merci d'avoir resté? Là, semble-t-il que j'ai commencé l'entrevue en disant merci d'être, puis après ça, j'ai terminé l'entrevue en disant merci d'avoir. Là, Christiane qui dit, parce que tu as juste voulu couvrir tous tes buts, Luc. Tu as voulu être certain de ne pas te tromper.
Bon, je voulais aussi dire en lien avec la fin de l'entrevue qu'il y a un lien vers le site de récréation, autant sur la publication web que j'ai fait la semaine dernière et sur celle qui sera publiée cet après-midi. Ouais.
Et moi, tiens, juste comme je disais, full disclosure. En fait, Élodie ne m'avait pas dit non à mon idée. Elle m'avait juste dit, Luc, ça se fait pas parce que ton idée a déjà été utilisée par toi et Radio-Canada. Puis même si Radio-Canada t'a donné le droit, il pourrait changer d'idée. Puis... Alors, c'était pas vraiment un refus de sa part. Il nous reste 4 minutes, Mme Campagna.
Luc, tu utilises quelle application pour écouter tes balados?
Balado!
Moi, moi, je les télécharge. Ben voilà, moi, j'ai un ordinateur Windows, alors je télécharge toujours avec iTunes. Ça n'a pas changé de nom. Mais pour les utilisateurs de Spotify, il y a une nouvelle qui est sortie en lien, qui amène un petit enjeu en ce qui a trait aux données. Hein, c'est très fréquent avec les géants du web. Après avoir lancé Your Daily Podcast, qui est une liste qui vous recommande des podcasts, Spotify va maintenant se servir de ce qu'il sait à votre propos pour vous proposer les meilleures coupures publicitaires possibles lors de l'écoute d'un podcast. Donc, Spotify Podcast Ads, qui est une technologie qui permet d'insérer des pubs, mais c'est pas la même chose que des pubs qui sont directement dans un balado, par exemple. Je pense à Marc Maron qui parle de son invité puis qui tout à coup se met à présenter un de ses produits. Ouais. Ou même les gars de Spotify America qui commentent les textes, qui font des commentaires politiques sur les textes de publicité qu'ils reçoivent. Mais il y a des moments dans les balados, c'est codé, où le diffuseur peut insérer des publicités. Mm-hmm. C'est déjà le cas, là. Il y a déjà de la géolocalisation. Par exemple, je téléchargeais des choses sur iTunes, puis j'avais des pubs qui concernaient des choses de Montréal.
Tout à fait.
Mais des pubs lues, par contre, par les animateurs de la firme House Stuffworks, dont j'écoute les balados. Oui, quand même.
OK, c'est pas la pub francophone ou locale, c'est vraiment une pub...
Non, mais c'était sur des levées de fonds de l'hôpital juif de Montréal ou des choses comme ça.
Mais lues par les gars du show.
Voilà, exactement. Mais là, ça va être... Mais sauf qu'elles avaient été insérées parce que je téléchargeais depuis Montréal.
Je comprends.
Mais sauf que là, ce qui va arriver, c'est que sur Spotify, ils vont se servir de à quel balado vous êtes abonné, quelles sont les musiques que vous écoutez pour influencer les publicités que vous allez recevoir. Donc, ils vont vraiment mêler vos données récoltées quand vous... rendez votre écoute plus personnalisée, si vous voulez, mais ça va maintenant servir aussi à influencer les pubs que vous allez entendre.
Est-ce que tu les sautes ou tes mains sont occupées? Parce que moi, j'écoute jamais les pubs, je fais toujours 30 secondes, puis je saute les pubs.
Je saute pas souvent les pubs, ça dépend du type de pub. Non, c'est pas vrai, j'en saute. J'en avance quelques-unes, mais si elles sont intéressantes, si elles sont bien faites. Ouais. Et il y en a qui sont carrément insérées. Il y a des animateurs, je pense à Marc Maron, je pense au... un autre balado que j'écoute en lien avec la productivité qui s'appelle Get It Done Guy. Tu sais jamais quand est-ce qu'il va se mettre à parler d'un produit. Mm-hmm. Et au point où ça en est mêlant, lui, dans son propos.
Okay.
Tu sais plus s'il est dans... Tu suivais son fil de pensée et il insère une publicité au milieu. Et ça, ce sont des publicités qui ne pourront pas être influencées non plus par le fait que Spotify veut enlever les pubs politiques, les pubs électorales. Il ne veut plus en présenter, mais si elles sont déjà dans le podcast, parce que vous écoutez un Crooked Media puis qu'ils sont démocrates, ça, ils auront pas d'influence là-dessus.
Je suis surpris. Par exemple, il me semble que, quelque part, je sais pas, ça fait partie de la liberté d'expression, c'est une source de financement pour eux, et pourquoi pas ce type de publicité-là plus qu'une autre. De toute façon, ça dure un temps. Ça dure le temps d'une campagne. Bon, aux États-Unis, c'est 2 ans et demi une campagne. Là.
Absolument, exactement.
Ouais, ouais. D'ailleurs, tu regarderas ça, là, il y a un sénateur qui a décidé qui se retirait de la course du côté démocrate.
Cory Booker.
Bon, tu sais déjà. Hey, bonjour tout le monde. Bonne fin de semaine. Bonne vie. Merci Jean-Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine.